de l'émission Sanctuaire et Communauté. Bruno reçoit aujourd'hui Sœur Priscille qui nous parlera de l'abbaye de la Coudre.
Tris et auditeurs, et oui, nous partons aujourd'hui dans la Mayenne, à Laval, rejoindre Sœur Priscille de l'abbaye de la Coudre. Bonjour ma sœur, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour Bruno. Donc, je suis Sœur Priscille, je suis une moniale de 65 ans et je suis au monastère depuis 43 ans. Voilà.
Merci. Et nos auditrices et nos auditeurs aiment bien, il y a une possibilité de voir quelle était votre vocation, comment vous avez vraiment reçu cet appel.
Alors, c'est une histoire qui est venue de très loin. Toute petite, je me revois enfant, peut-être vers 6-7 ans, mettons 7 ans, on dit que 7 ans c'est l'âge de raison. Je me revois m'asseoir à une petite table et imaginer que quand je serai grande, je chercherai la vérité. Sans doute est-ce que mes parents m'avaient dit que la vérité était la plus belle chose à découvrir ou à cultiver. Plus tard, jeune adolescence, au moment de la profession de foi, j'ai beaucoup lu les évangiles et je suis tombée sur cette parole du Christ, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Une autre parole, d'ailleurs, beaucoup plus tôt m'avait accompagnée. Donc, comme vous l'avez compris, je suis née dans une famille chrétienne. Nous parlions de l'évangile à table. Et je me souviens, petite aussi, peut-être vers 7-8 ans, me remémorer cette parole de l'évangile centrale. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et j'avais déjà la perception que donner sa vie, ce n'était pas nécessairement donner sa mort, mais ça pouvait être donner la longueur de sa vie. Et jeune adolescente, j'aspirais à un lieu de prière où je pourrais chercher Dieu, chercher le Christ, être unie au Christ. La lecture des évangiles a fait que Jésus est devenu mon meilleur compagnon. Voilà. Et après, la vocation précisé vers l'âge de 16-17 ans. À 17 ans, j'ai fait un séjour ici, dans ce monastère, à l'abbaye Notre-Dame de la Coudre, pendant la Semaine Sainte, et j'ai eu l'impression d'être au paradis. La liturgie était tellement belle que je me suis dit, eh bien, je reviendrai là pour toujours. Voilà. Et j'y suis entrée 5 ans plus tard. Voilà.
Alors maintenant, après avoir entendu ce beau témoignage de votre part, pouvez-vous nous retracer, et j'ai envie de dire, messieurs ou mesdames les historiens ou historiennes, n'hésitez pas à prendre le temps et écouter, puisqu'il y a vraiment un très beau parcours historique, j'irais, sur cette abbaye de la Coudre. Donc pouvez-vous nous présenter l'historique de votre communauté et de l'abbaye ?
Oui, alors si vous me le permettez, je vais revenir encore en amont. Donc nous sommes une abbaye cistercienne. Les cisterciens sont un rameau du grand arbre bénédictin. Donc Saint-Benoît, 6e siècle. Les cisterciens, fin du 11e siècle. Les cisterciens, c'était une réforme. Ils ont voulu, la vie est faite de déploiement et quelquefois de retombées et nécessite régulièrement des réformes pour retrouver le désir premier des fondateurs, en l'occurrence là, le désir premier de Saint-Benoît. La vie cistercienne est née donc à la fin du 11e siècle dans un souci de retrouver la simplicité des origines. Et ça s'est exprimé par la recherche d'une solitude. Les monastères cisterciens se sont établis dans des lieux reculés. La remise en valeur du travail manuel et donc d'une économie où les moines vivent du travail de leurs mains, comme Saint-Benoît le demande. La remise en valeur d'un certain silence. La vie cistercienne s'est déployée de manière exponentielle au XIIe et au XIIIe siècle. Elle a connu des vicissitudes, les monastères se sont enrichis et il a fallu de nouveau penser à des réformes. Et la réforme trappiste au XVIIe siècle est venue de l'abbé de Rancé à l'abbaye Soligny de la Trappe en Normandie, qui a voulu restaurer de nouveau une vie plus simple et plus rude. Et nous, nous sommes originaires de ce rameau trappiste qui a connu, qui a dû quitter son abbaye de la Trappe lors de la tourmente révolutionnaire. Il y a eu un essaim qui est parti en Suisse et qui, fuyant un peu la tourmente révolutionnaire, a fait tout un périple en Europe, jusqu'en Biélorussie, jusqu'en Russie même, puis est revenu par le Nord, la Pologne, les Pays-Bas, l'actuelle Belgique, avec un établissement à Liège. Et puis notre communauté est revenue s'implanter en Mayenne, donc en 1816. Nous étions le deuxième monastère féminin à revenir en France. Ensuite, nous avons habité le nord de Laval dans un ancien prieuré qui est devenu vite trop petit parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de vocations et nous avons régulièrement essaimé. Donc ça a été d'abord une abbaye qui s'était établie à Mondé, toujours la Normandie, où sont actuellement les frères Prémontré, et dont les sœurs sont parties finalement fonder en Belgique, à Clairefontaine. Ça, c'était en 1837. En 1841, nous avons fondé une communauté à Upsy, dans les Vosges. Upsy qui a été féconde en donnant naissance à tout un rameau japonais très florissant et en fondant aussi au Mexique. Ça, c'était 1841. En 1875, nous avons contribué avec des sœurs de Maubec, le sud de la France, à fonder Chambaran en Isère. C'était 1875. Nous avons fondé aussi dans le Nord, en 1893, Belleval. Nous avons fondé ensuite à Sainte-Anne-d'Aurée une communauté qui ensuite s'est transférée à Campénéac en Bretagne. C'était en 1920. Puis en 1929, nous avons contribué au relèvement des ruines de l'abbaye d'Igny, une antique abbaye cistercienne. C'était en 1929. Ensuite, il y a eu un essaim qui est parti en Afrique en 1968. Et puis, nous avons aussi créé une petite maison à Meymac, en Corrèze, en 1981. Toutes ces maisons n'ont pas perduré et certaines se sont rejointes. Je pense à la communauté aux communautés de Belleval, Upsy, La Grâce-Dieu et le Val-d'Igny. Ce sont trois communautés qui se sont réunies à Igny en refondant une communauté qui s'appelle maintenant le Val-d'Igny et qui est aussi maintenant une abbaye assez importante. Donc voilà pour notre histoire.
Allez-y, je vous en prie.
Non, nous avons accueilli. Nous avons une sœur. Nous avons accueilli une sœur norvégienne dans les années 70, qui avait le désir de repartir fonder en Norvège. Et elle a contribué à l'établissement d'une communauté là-bas, l'abbaye de Totra, le monastère de Totra, qui n'est pas encore une abbaye, mais un prieuré.
Et voilà. Donc, vous êtes arrivé à Laval, où vous êtes actuellement, à quelle époque ?
Donc, en 1816, nous sommes restés une trentaine d'années dans le nord de la ville, Et puis, comme la communauté était très nombreuse, malgré les fondations, nous avons été aidés par l'abbaye de Port-du-Salut, une abbaye qui est à 15 km d'ici. Les frères de Port-du-Salut, vous connaissez peut-être leur fromage, qui n'est plus fait par les moines d'ailleurs, mais qu'ils ont initié. Donc les frères de Port-du-Salut nous ont aidés à construire l'abbaye de la Coudre, un gros monastère qui a été construit dans les années 1856 jusqu'à 1859. Et nous sommes venus nous établir en 1859 à l'abbaye de la Coudre. Donc c'est plutôt au sud de Laval. C'était alors à la campagne et la ville est venue jusqu'à nous. Mais par bonheur, nous avons du terrain et nous avons les avantages que représente la proximité de la ville avec certaines facilités et en même temps nous arrivons à l'oublier. Voilà pour maintenant la description de l'abbaye. Excusez-moi, j'ai été longue.
Non, c'est très intéressant. Et maintenant, parlez-nous de la vie du monastère actuel.
Alors, la vie du monastère, la vie cistercienne repose sur trois piliers, la prière liturgique, la lectio, la lecture des Écritures saintes, et puis le travail manuel. Et alors, nous valorisons toujours cela. Alors, la liturgie, eh bien, ce sont sept offices. Un la nuit, très tôt, enfin à 4 heures du matin. Temps qui est suivi, un office qui dure, entre 45 minutes et une heure, selon le déploiement de la liturgie, si c'est une fête, une solennité ou un simple jour de semaine. Et ce temps de vigile est suivi d'un temps de prière personnelle et de lecture de Lectio Divina, donc lecture des Écritures, lecture de ceux qui l'ont commenté, lecture de nos pères cisterciens. Il y a une école de spiritualité cistercienne monumentale, hein, je dirais, depuis Saint Bernard. Mais Saint Bernard n'a pas été le seul. Il y a des grands noms comme Guillaume de Saint-Thierry, Elred de Rivaux, Guéric d'Igny, dont j'ai parlé tout à l'heure de l'abbaye de Guéric d'Igny. Tout ça des moines du XIIe siècle qui ont déployé une spiritualité finalement de l'amour de Dieu. Voilà.
Et maintenant, je propose de nous parler, puisque vous avez parlé donc de Notre-Dame du Salut tout à l'heure.
Oui.
Pouvez-vous nous parler des aménagements récents dans votre chapelle où vous avez bénéficié de cela avec l'aide du Père Rondeau?
Oui, ça, le Père Rondeau, ça remonte déjà aux années, ça fait déjà 50 ans. Il nous a, les communautés. Jusqu'au concile était généralement assez fermé, possédait des grilles, l'accès au sanctuaire pour les fidèles était un peu compliqué, et donc le père Rondeau nous a aidé à refaire notre église, mais elle a bien évolué depuis. Ça c'était dans les années 70. En 1993, nous avons fait faire à notre église un tête-à-queue. C'est-à-dire qu'il y avait dans le prolongement de notre église une chapelle pour les hôtes, les familles. Et là, nous en avons fait notre église communautaire, notre église abbatiale. Nous avons rallongé un peu cette chapelle pour donner de la place aux fidèles, pour que les fidèles puissent être derrière nous. Et ça nous permet un bel accueil. Et de l'ancienne église, nous avons fait notre salle capitulaire, le chapitre. Le lieu où chaque matin nous lisons un chapitre de la règle de Saint-Benoît et où l'abbesse commente la liturgie, commente la règle de Saint-Benoît, commente aussi la liturgie. Donc, voilà pour notre nouvelle église en 1993. En 2014, nous avons fait un réaménagement encore du sanctuaire pour faire venir directement la lumière naturelle dans le sanctuaire. Donc nous avons maintenant un très bel édifice vraiment qui se prête bien à la prière.
Donc après ces aménagements, oui. Et c'est important de rappeler, je dirais, à nos auditrices et auditeurs, vous nous en avez parlé, vous êtes bien implanté, j'ai vu ça, à Calvados, Saure-et-Loire, les Vosges, le Japon, dont vous nous avez parlé tout à l'heure,
oui.
Nigeria et la Norvège. Vraiment, c'est un beau déploiement, hein, si j'ose dire.
Le Cameroun plutôt que la Norvège. Malheureusement, c'est une communauté qui a fermé. Qui n'a pas duré, mais qui a eu son importance parce que à Grand-Selve au Cameroun, donc nous avons accueilli des Nigérianes que nous avons formées et elles ont fondé le monastère cistercien d'Abakaliki, donc en Afrique aussi. Donc le rameau s'est poursuivi quand même en Afrique. Voilà.
Alors, ce qui est intéressant pour nos auditrices jeunes, oui. Ça pourrait intéresser, donc, les séjours monastiques jeunes.
Oui.
Donc, et vous êtes à l'écoute des personnes qui pourraient avoir la vocation. Comment se déroule un cheminement si une jeune femme se pose la question elle est en train de discerner, savoir si elle voudrait rentrer éventuellement en religion ?
Eh bien, nous prenons contact, nous essayons de faire connaissance. Et nous lui donnons l'occasion de faire connaissance avec la communauté, avec notre vie. Donc ça peut être par des séjours jeunes, effectivement. Mais les séjours jeunes sont ouverts à des personnes... d'ailleurs, c'est pas les séjours jeunes, c'est les séjours monastiques. Sont ouverts à des personnes qui veulent découvrir la vie monastique avec ou sans intention vocationnelle. Mais s'il y a une intention de chercher sa vocation, effectivement, alors nous proposons des week-ends, des séjours de découverte de l'intérieur de la vie monastique. Et puis nous proposons ce qu'on appelle des stages, mais qui sont d'une durée d'une semaine, deux semaines, trois semaines, des séjours qui peuvent être répétés pour voir si la personne, si elle fait une expérience heureuse à travers les différents axes dont j'ai parlé, la prière liturgique, la lectio divina, le travail. Sans oublier tout cela enveloppé à l'intérieur de la vie fraternelle. Donc il s'agit de voir si la personne jeune se retrouve dans ce cheminement, si elle est aussi à l'aise avec la communauté. Parce qu'on peut être à l'aise avec la spiritualité cistercienne, mais cette spiritualité cistercienne a une note particulière selon les communautés. Vous avez des communautés plus ou moins nombreuses, vous avez des communautés plus ou moins qui ont une histoire plus ou moins longue. Tout ça, ça donne un visage à la communauté. Il y a aussi le lieu qui peut compter. Parmi les fondateurs, on a dit par exemple, d'Albéric, le deuxième fondateur après Étienne Harding. Étienne Harding, c'était le troisième. Mais Albéric était un aimer la règle et le lieu. Et on a dit de son successeur, Étienne Harding, qu'il aimait la règle et les frères. Donc, il y a aimer le lieu, aimer les frères. Vous voyez, c'est quelque chose d'important dans le discernement d'une vocation pour une communauté précise, au-delà de la spiritualité.
Alors, nous avons parlé précédemment de la partie spirituelle, plus spirituelle. Maintenant, oui. On va parler de la partie des produits monastiques. Alors,
si vous voulez.
On va prendre le temps. Mais bon, je dirais, entre autres, il y en a deux qui sont vraiment très, très connus en France. J'ai envie de le dire, c'est le fromage Trappe de Coudre.
Oui.
Vous allez nous en parler. Et également, j'irai dans tous les artisanats monastiques, vos célèbres flans entremets
oui,
de différentes
fait.
Couleurs.
Tout tout
je
à
pense
fait.
Que c'est une de vos cartes postales présentes, je dirais, dans les établissements.
Pardon ?
Je disais, on peut penser que c'est une carte postale gourmande de votre abbaye dans certains établissements.
Oui, oui, ça, vous avez tout à fait raison. Bon, alors le fromage, c'est une antique tradition. Nous avons, quand nous sommes arrivés en 1859 à l'abbaye de la Coudre, il a fallu pourvoir à nos besoins. Et dès 1868, nous avons créé une fromagerie. Donc avec l'aide des frères de Port-du-Salut qui nous ont transmis leur savoir-faire pour le fromage. Donc là, les sœurs ont acquis des compétences. Nous produisions nous-mêmes le fromage. Donc nous avions des lieux de récolte du lait. C'était pas le lait de nos troupeaux, si vous voulez. Nous ramassions le lait chez les cultivateurs environnants, où nous le faisions ramasser. Et puis, nous produisions le fromage, et nous l'affinions, et nous commencions à le commercialiser. Nous avons eu de très beaux résultats avec des médailles d'or au concours de l'agriculture à plusieurs reprises dans notre histoire. Et puis, dans les années 90, il y a une autre activité, celle des entremets, qui commençait à prendre de l'essor et qui commençait à bien nous occuper. Et on s'est rendu compte que nous n'avions plus les forces de poursuivre la production du fromage. Donc nous avions des relations traditionnellement très bonnes avec des fabricants de fromage, notamment le groupe Bell, qui récoltait le lait sur les espaces qui nous étaient dédiés. Et donc, le groupe Bell nous a, depuis les années 90, nous fournit le fromage et nous le portons à maturation dans nos caves. Donc, nous n'avons plus que le travail d'affinage du fromage. Tandis que pour les entremets, bien c'est depuis les années 1970 que nous avons déployé cette activité en l'élargissant de plus en plus. On a commencé par deux, puis quatre parfums, et puis maintenant nous sommes puis six parfums, puis huit depuis 2014. Et c'est devenu vraiment notre activité. La plus importante, si vous voulez, pour le gagne-pain de la communauté. C'est très intéressant, les entremets, parce que c'est un travail qui permet à tous les âges de la communauté de s'investir. Il y a le travail de production, mais il y a aussi le travail de conditionnement. Donc, nos sœurs anciennes peuvent venir mettre des sachets d'entremets dans des petites boîtes. C'est pas très compliqué pour elles. Donc, toutes les sœurs peuvent participer à cela. Et puis, donc, nous assurons tout intégralement, de la production au conditionnement, à la réception des commandes, à la préparation des commandes, les expéditions, le travail aussi de contact auprès des acheteurs, si vous voulez. Les magasins monastiques. On trouve les entremets dans les magasins de monastères, mais aussi en grande surface, dans des Carrefour, dans des Leclerc, et puis chez des détaillants, dans des épiceries fines aussi. Donc c'est vraiment un produit qui commence maintenant à être bien connu.
Et vous faites également de la maroquinerie ?
Oui, tout à fait. Nous avons deux sœurs qui étaient très, très habiles de leurs mains. Et on s'est rendu compte là que ça pouvait être un créneau d'épanouissement pour elle, et puis utile aussi parce que bon, il se trouve qu'on s'était rendu compte par notre magasin où nous avons une librairie religieuse que les fournisseurs de liseuses ou de couvertures pour livres liturgiques arrêter leur travail. Enfin, nous avions un fournisseur qui a arrêté son travail. Et là, il y avait une demande, les clients demandaient, mais nous n'avions plus de fournisseur. Alors, on s'est lancé dans cet artisanat. Et nos sœurs produisent, elles sont deux à s'entraider pour cela. Nous avons des couvertures ou bien des liseuses, c'est-à-dire des couvertures avec un rabat ou même des custodes, c'est-à-dire des couvertures mais qui se referment avec une fermeture éclair dans lequel le livre liturgique est très bien protégé. Donc nous faisons tout cela. Les livres liturgiques principaux, mais aussi éventuellement des livres, des couvertures ou des objets de maroquinerie sur mesure.
Alors, je vous propose, si l'on continue dans les moments qui nous restent, nous parler et de l'hôtellerie et de l'hébergement, puisqu'on a parlé du contenu. Maintenant, c'est comment vous rencontrez, si j'ose dire, et en profitant de l'hôtellerie et de l'hébergement pour nous dire un petit peu comment cela se passe. Et après, vous pourrez nous parler comment peut-on devenir ami de la coudre, s'il vous plaît.
Oui, d'accord. Alors, l'hébergement, en fait, nous avons deux hôtelleries. Une hôtellerie qui a été construite dans les années 1868, où il y a une quinzaine de chambres, une belle salle, deux belles salles de réunion, enfin, principalement une salle de réunion, puis une petite salle pour des carrefours, et une petite hôtellerie en forme de cloître, très sympathique, mais que maintenant nous réservons plutôt aux jeunes. Et nous avons depuis 2014 une hôtellerie d'une quinzaine de chambres aussi, avec plus de confort, c'est-à-dire cabinet de toilette avec toilette et douche, et puis très très bien insonorisé, donc il est très possible de s'y reposer, de s'y refaire, et puis elle est à proximité de l'église. Donc là, nous, dans cette nouvelle hôtellerie, nous accueillons plutôt les personnes qui veulent venir faire un temps de recul, de retraite spirituelle. Ça va de quelques jours à 8 jours, voilà. Donc nous avons ces deux types d'accueil. Ça nous arrive aussi d'accueillir des groupes sur la journée, et nous avons des salles à manger qui nous permettent d'accueillir jusqu'à une quarantaine de personnes de couvert, je pense.
D'accord.
Voilà, voilà pour notre hôtellerie.
Alors, comment peut-on devenir ami de la coudre ?
Alors, pour devenir ami de la coudre, il faut... Alors, comment faut-il faire ? Il faut adhérer à la charte des amis de la coudre. Donc, je la cherche.
Je pense qu'ils peuvent peut-être la retrouver sur le site internet, non ?
Oui, voilà, on la retrouve sur notre site internet, dont je peux vous donner l'adresse,
absolument.
Si ça vous intéresse.
Ça nous intéresse, absolument.
Oui, l'adresse de notre site, c'est www.abbaye-coudre.fr. Et là, vous pouvez aller dans l'onglet Contact et vous trouvez les amis, l'association des amis de la coudre, avec une charte d'adhésion. Parce que c'était important pour nous que nos amis sachent et qu'ils s'engagent, qu'ils voient quelles sont un peu les conditions. Mais c'est tout à fait possible. On leur demande d'être ambassadeurs de notre vie, contribuer à notre rayonnement, proposer des activités toujours avec l'assentiment de l'abbesse, œuvrer dans la discrétion et l'humilité, prier pour les sœurs de la coudre, faire une retraite de temps en temps à l'abbaye de la coudre, voilà.
Justement, vous parliez de prière. Alors, je vous propose qu'on termine cette émission, et oui, le temps passe, avec une prière que vous voulez nous partager.
Une prière que je voudrais vous partager.
Ça peut être un « Je vous salue Marie », ça peut être autre chose.
Eh bien, ça pourrait être la prière de Saint Bernard. Souviens-toi, ô Marie. Souvenez-vous. Ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection implorait votre assistance ou réclamer vos prières aient été abandonnés. Animés de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je viens vers vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen.
Amen. Eh bien, sœur Priscille, au nom des auditrices et auditeurs de Radio Maria France, il me reste à vous remercier pour votre participation à cette émission.
Merci Bruno, merci beaucoup.
Belle journée.
Belle journée, au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Sanctuaire et Communauté avec Bruno qui recevait aujourd'hui sœur Priscille qui nous a parlé de l'abbaye de la Coudre. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.